Entraide Blaisoise. Bienvenue à la Croix-Rouge Unité Locale de Blois. Nous allons vous parler de son histoire, de ses objectifs et de ses actions. La Croix-Rouge française est l'une des toutes premières associations à s'être engagée dans la lutte contre la précarité et elle est présente dans 185 pays. En France, nous sommes 50 000 bénévoles. À l'heure actuelle, les volontaires de l'unité de Blois, une centaine d'actifs ont accompli plus de 20 000 heures par an, réparties dans trois grands domaines, l'action sociale, l'urgence, la formation. L'objectif, humaniser la vie. À la Croix-Rouge de Blois, nombreux sont les secouristes bénévoles qui donnent de leur temps et s'investissent. Faisons le portrait de l'un d'entre eux. Bonjour, peux-tu te présenter ?
Bonjour, oui, je peux me présenter. Donc je m'appelle Sidoine. C'est le prénom que marquaient bien mes parents. Je suis blaisois. D'un point de vue professionnel, en fait, j'officie initialement dans le domaine du laboratoire médical, enfin de l'analyse médicale, mais ces derniers temps plutôt en labo, on va dire plutôt général, chimie, environnement. Et parallèlement à tout ça, j'exerce donc depuis maintenant 2003 une activité de bénévole au sein de l'unité locale de Blois de la Croix-Rouge française.
Comment et pourquoi es-tu devenu secouriste bénévole à l'unité locale de Blois ?
Alors en fait un peu par hasard. Alors pas le hasard des mathématiques mais un hasard en fait de la vie en fait des situations et circonstances qui a fait que tout simplement pour les besoins d'un concours d'entrée pour une formation sanitaire et sociale, il était listé dans les prérequis d'avoir en poche le brevet de secourisme.
Ah oui.
Et donc par rapport à ça, plusieurs possibilités, plusieurs voies en fait s'offraient à moi d'effectuer cette formation en fait à travers différents corps, alors que ce soit le plus évident était bien évidemment les sapeurs-pompiers. Il y avait aussi la possibilité d'effectuer cette formation également à travers le corps médical ou paramédical par le CESU, le centre d'enseignement de soins d'urgence, qui est l'entité de formation en fait du SAMU, et puis ou d'autres associations de sécurité civile que je connaissais pas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on a eu un repas de famille. Et lors de ce repas de famille, il y avait une tante qui a fait une belle carrière dans le domaine du soin, voilà, en maison de retraite, et qui avait fait sa formation au sein justement de la Croix-Rouge, sa formation de soignant en fait dans l'Institut Croix-Rouge. Et elle n'a eu de cesse d'encenser en fait la qualité de la formation et des intervenants, enfin du facteur humain qui était dégagé de cette formation. Et effectivement, quand j'ai abordé le fait que je devais passer la formation de premier secours, elle m'a dit pourquoi tu le passes pas à Croix-Rouge ? Et c'est à partir de là que j'ai fait pourquoi pas, why not ? Et c'est à partir de là, donc en 2003, que je poussais la première fois la porte de la Croix-Rouge pour la première fois de Blois, voilà.
Et peux-tu nous raconter ton parcours donc depuis 2003 à la Croix-Rouge de Blois ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai effectué la formation AFPS, donc c'était cette formation, enfin ce qu'on appelait brevet de secourisme. Alors AFPS à l'époque, c'était attestation de formation de premier secours. C'est la formation en fait actuelle PSC, qu'on appelle PSC, prévention secours civique, qui a évolué un petit peu avec le temps. Mais à l'époque, donc, j'ai effectué cette formation. Et ce qui s'est passé, alors, je trouvais le domaine assez intéressant, enfin du premier secours, mais sans vraiment saisir vraiment le pourquoi, vraiment sont vraiment cernés, vraiment ce qui me plaisait vraiment. Mais il y avait un truc, sans vraiment pouvoir identifier, il y avait un truc. Et ce qui s'est passé, donc encore un autre hasard qui est pas si hasardeux, c'est qu'en fait à la fin de la formation, la monitrice nous informait qu'il allait se dérouler une autre formation complémentaire à celle-ci, qui s'appelait à l'époque AFCPSAM. Alors c'était l'acronyme de attestation de formation complémentaire de premier secours avec matériel. Et en l'occurrence, c'est pareil, je me suis dit, pourquoi pas aussi. Donc c'était une formation qui était axé plutôt pour, bah, je dirais, les personnes qui allaient faire des formations dans le sanitaire social, pour les ambulanciers, pour les personnes qui font de la plongée, pour les personnes qui sont un peu, pas sauveteurs en mer, mais qui allaient justement dans ces voies-là. Et je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai effectué cette formation. Et à partir de là, c'est vraiment été quelque chose qui a vraiment suscité vraiment un intérêt beaucoup plus marqué en fait chez moi. Je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait. Alors pour plusieurs raisons, déjà le cadre de la formation, on était un groupe qui était beaucoup plus réduit. On commençait justement par la quantité de la formation, enfin la formation elle-même qui était beaucoup plus dense, beaucoup plus importante, parce que elle abordait les prémices de commencer à prendre en charge justement une victime, une personne, pas tout seul, mais justement en équipe, avec du matériel de prompt secours. Donc voilà, avec un déroulé, un savoir qui était assez dense et assez important. Et en plus, cette formation en fait était dispensée par l'instructeur, qui avait cette particularité, mais ce qui est valable aussi pour tout le petit noyau en fait d'instructeurs qu'on a au niveau du département, au sein de la Croix-Rouge, dans notre département. Et ils ont cette, en grande majorité, cette particularité en fait d'être instructeur à la Croix-Rouge, mais aussi d'effectuer des formations aussi au niveau du CESU, donc l'entité de formation en fait du SAMU, et également aussi d'exercer en fait leur activité professionnelle dans le domaine du soin à des niveaux assez avancés, ou du moins dans une spécialité suffisamment avancée, qui fait qu'ils ont un background, qui fait que quand ils enseignent, enfin c'est quelque chose qui moi m'a très très vite en fait accroché. Vraiment, quand j'ai vu tout ce savoir, etc., je me suis vraiment tout de suite accroché. Et c'est quelque chose qui...
Ça t'a passionné tout de suite, quoi, finalement.
Exactement, ça m'a passionné. Mm-hmm. Ouais. Et ça aussi, c'est que leur passion qu'ils ont vraiment pour leur domaine, en fait, est quelque chose qui est hyper contagieux. Ce qui fait que, j'ai effectué cette formation.
Ça m'a bien plu. Et elle dure combien de temps, cette formation, Sidoine, alors?
Alors, cette formation, à l'époque, je me souviens plus combien qu'elle faisait, mais j'étais sur plusieurs jours, je dirais 4-5 jours.
À peu près, quoi, je veux dire.
Ouais,
oui.
C'est à peu près 4-5 jours, mais pour la formation équivalente actuellement, par exemple, c'est 35 heures de formation. Donc, je pense que c'est à peu près ça, on est à peu près dans les mêmes temps. Le fait que, justement, cet instructeur avait justement cette fibre et cette passion, étant contagieuse, etc., c'est quelque chose qui vraiment m'a interpellé et m'a confirmé au fait que je devenais bénévole peu de temps après. Et puis au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure en fait des actions que j'ai suivies justement au sein de la Croix-Rouge, ça m'a permis de continuer en fait mon chemin. Et ce qui fait que par exemple actuellement je suis actuellement équipier secouré, donc je fais partie des équipes de secours de la Croix-Rouge. Je suis également formateur de premier secours, ce qui me permet de dispenser les formations au grand public, mais également les formations internes pour justement former les personnes qui vont être dans les équipes de premier secours, quoi. Pareil, pour effectuer comme moi les postes de secours qu'on fait souvent. Et puis également, j'ai un petit pied aussi dans l'arbre un peu décisionnel de la Croix-Rouge en étant adjoint à la formation, à la direction locale de l'enfance et du secourisme. Alors mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que ça permet de gérer un petit peu la logistique, bien sûr, pour les formations grand public, mais également aussi pour mettre en place des petites animations pour essayer de sensibiliser en fait les gens dans par exemple les magasins, dans ces petites initiations, ces petites démonstrations, pour essayer justement de d'impacter un peu la population sur ce genre de choses.
Donc finalement, si je comprends bien, la formation, c'est une activité principale. Aussi bien au premier secours pour le grand public que pour des professionnels, finalement.
C'est devenu mon activité principale. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais que mon ACPSAM en poche, enfin mon attestation en formation complémentaire. Et j'avais pas encore d'expérience dans la formation et je savais même pas que j'allais intégrer cette branche-là. Je faisais que des postes de secours parce que je pouvais faire que ça. Et puis au fur et à mesure, je suis devenu initiateur lors des journées d'appel de préparation à la défense. C'était un petit module qu'on faisait d'une heure et demie dans la journée pour la journée militaire, pour dispenser en fait des gestes. Alors, c'était assez ramassé d'un point de vue pédagogique parce que fallait montrer des gestes et c'était de la PLS, le massage cardiaque. Donc c'était quand même des gestes qui demandaient quand même du temps, mais sur une heure et demie, c'était assez court. Mais j'ai accroché assez rapidement aussi par rapport à la pédagogie, je trouvais ça intéressant. Mais c'est un parcours un peu typique hein, de tout formateur ou tout formateur au niveau de la Croix-Rouge. En fait, c'est voilà, de devenir initiateur, puis après bah, de devenir bah, moniteur, puis après moniteur pour la formation en public. Alors, voilà, et puis bah, ça m'intéressait. Voilà, puis continuant en évoluant tout simplement et pas de formation en public, après formation plutôt voilà interne. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une activité on est obligé de faire des choix par rapport à ça, et donc oui je fais beaucoup plus de formation que de poste de secours maintenant. Et, voilà.
Qu'est-ce que cela veut dire pour toi être secouriste?
Alors pour moi en fait le secourisme, alors je pourrais faire genre une définition du petit Robert ou reprendre une définition de guide classique, enfin le fait de d'apporter secours à personne, mais je pense que c'est cette partie en fait de mécanique humaine quoi, quelque chose de qu'on a, je pense qu'on a tous un peu en nous. On n'aime pas voir quelqu'un pleurer, on n'aime pas voir quelqu'un saigner, on n'aime pas même
souffrir, quoi,
de voir quelqu'un souffrir, etc. Ouais, et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous un peu en nous, qui en nous gêne un peu d'humain ou d'homo sapiens, enfin de voilà, d'essayer de justement d'aider la personne qui est finalement comme nous quoi.
Oui, ça donne du sens.
Exactement, c'est un sens. Ouais, c'est ça. C'est un sens pour essayer, enfin, par miroir, quoi. Et tout simplement, c'est quelque chose qui nous dépasse, je pense, presque, quasiment.
Oui, oui.
Enfin, tout du moins, voilà. Mais après, bien sûr, c'est pas uniquement, en fait, appliquer simplement des gestes de secours. C'est quelque chose qui me semble être plus.
Oui, c'est fondamental au point de vue humain. Ouais.
Je pense que c'est plus ça. Après, bien sûr, il y a l'aspect. L'aspect entre guillemets technique, enfin de par rapport à un problème, on applique, mais c'est voilà, après c'est il y a tout l'aspect parce que chaque personne a un vécu, des choses qui font que c'est une personne globale et il y a un facteur humain qu'on est obligé de prendre en considération quoi.
Et quel sens cela a-t-il d'un point de vue social, c'est-à-dire quelle importance cela a dans la société également?
Il y a plusieurs points. Alors difficile de globaliser. Je vais prendre un exemple. Le fait, par exemple, de quand on, c'est quelque chose qui m'a assez marqué au départ quand je suis rentré en fait à la Croix-Rouge. Alors c'est un peu comme je pense comme toutes les associations. Il y a le facteur humain, social en fait, le fait de rencontrer du monde et le fait de rencontrer ces personnes, de tisser justement du lien avec les autres personnes. Ça, je pense qu'on pourrait le retrouver globalement dans beaucoup d'associations, pour pas dire quasiment toutes. Je pense que c'est pareil, c'est un besoin, je pense aussi de l'humain, de pas rester seul et de pas voilà. Mais ce qui m'a tout de suite assez accroché encore plus au niveau de mon engagement bénévole, enfin assez rapidement quand je suis devenu bénévole, c'est l'accueil quoi. C'est l'accueil général qui se dégageait un petit peu justement de toutes ces personnes que je rencontrais, que je rencontre encore même de manière globale. C'est l'accueil et cette sorte de bienveillance qui vraiment transparaît dans toutes les rencontres, et même de manière encore plus, je vais prendre un cas un peu plus spécifique, ou par exemple même dès les premières réunions qu'on avait en tant que secouriste, c'est vraiment on voyait vraiment une convivialité qui était en place et vraiment de proposer un cadre bienveillant et
chaleureux aussi, en
chaleureux, ouais, qui permettait justement de sentir bien quoi, et à partir de là donc de pouvoir sans se poser trop de questions, etc. Enfin, de pouvoir mettre des choses en place et voilà. Et justement, ça permet vraiment ce cadre-là de un peu safe, un peu.
On est soutenu.
Exactement.
Et finalement, c'est ça aussi qui fait que t'es motivé. Parce que je voulais justement te demander quelles étaient tes motivations, mais je pense que c'est cette ambiance, cette atmosphère bienveillante où tout le monde s'entraide. Répercute sur les motivations qu'on a pour aider les autres.
Oui, alors en plus, c'est ça que je voulais souligner justement par rapport à ça. C'est qu'en fait, cette entraide prend pied, et ça j'ai compris un petit peu plus tard, c'est qu'en fait, cette entraide, cette, cette bienveillance, le fait de non-jugement, etc., prend pied, en fait, dans les valeurs, dans les principes, dans le fondement même, en fait, de la Croix-Rouge. Ça fait partie des principes fondamentaux de la Croix-Rouge. C'est un socle, et qui fait qu'on a des principes que chaque bénévole doit d'être le plus possible, justement, dans ses valeurs. Et c'est un outil qui est vraiment, qui fait que, cet outil et ce principe fait que, bah, quelque part, on voit, en fait, le résultat de ça. Et ce résultat fait que, ça permet, justement, dans toutes les actions. C'est-à-dire que, moi, je l'ai vu en tant que, dès le départ, au niveau de l'accueil, etc., mais chaque bénévole de la Croix-Rouge peut voir aussi, justement, que, à travers ses valeurs, et même à travers nos actions qu'on effectue, ça répercute aussi que nous aussi on est le non-jugement, l'impartialité, etc. Et que ça permet justement plus sereinement de pouvoir prendre une personne en charge de manière la plus optimale possible, même à travers nos formations, justement, de mettre en place, et ça aussi c'est que les instructeurs quelque part mettent en place tout un environnement le plus optimal possible pour nous hisser le plus possible à notre évolution. Et nous aussi, après, par mimétisme un peu, enfin pas uniquement par mimétisme, mais simplement parce que c'est quelque chose qui est le plus évident, finalement, de proposer un environnement où justement, quand on fait la formation, les stagiaires, on essaie de les mettre dans les conditions les plus optimales possibles pour qu'ils puissent justement eux-mêmes rayonner ce qu'ils peuvent faire le mieux, quoi.
Donc finalement, on est aidé et on aide en retour, finalement, on peut dire.
Oui, c'est tout ça. À fait. Enfin, c'est pas unilatéral. Enfin,
c'est une
connexion. Enfin, c'est l'humain. Enfin, je pense que c'est un processement humain alors que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les postes de secours, enfin dans notre activité de prendre en charge une personne, que ce soit dans l'écoute. C'est quelque chose qui me semble être essentiel. Je pense à tout.
Oui. C'est très important, cette notion de non-jugement. Et est-ce difficile, Sidoine, d'être secouriste?
Il y a plusieurs plans.
C'est-à-dire, au point de vue de la somme de travail que tu dois donner, de ton emploi du temps, physiquement, moralement, est-ce que c'est difficile? Psychologiquement?
Il y a plusieurs plans. Il y a plusieurs plans, en fait. Le truc, c'est que la formation, alors ça dépend de quelle formation. La formation en public, je pense que c'est une formation qui se fait sur une journée. On essaie vraiment de s'adapter. C'est des choses qui se mettent en place. Il y a pas de souci. Après, c'est si par exemple pour devenir secouriste, il y a plusieurs paliers. Il y a plusieurs formations possibles d'effectuer. Dans un premier temps, on effectue ce qu'on appelle un PSE1, ce qu'on appelle un premier secours en équipe de niveau 1. Alors c'est un peu l'équivalent à ce que la formation que j'ai effectuée à SCPSM, là que j'avais parlé un petit peu avant. C'est vraiment, on est sur des 35 heures de formation, on est sur justement, on commence à appréhender les gestes de premier secours en équipe avec le matériel de premier secours qui est nécessaire, etc. par rapport à ça. Donc c'est quand même des formations qui sont quand même assez denses, ça c'est vrai. Malgré ça, les formateurs, ce que je disais, on essaie d'être le plus possible justement on essaie d'aider le plus possible, de hisser la personne justement le plus possible vers l'objectif qui est justement de devenir secouriste. C'est quelque chose qui effectivement par contre prend du temps, c'est des journées qui sont quand même assez chargées, ça c'est clair. Mais à côté de ça, c'est quelque chose qui le contenu est tellement quand ça nous intéresse, c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant. Donc c'est quelque chose qui est assez moteur, finalement. Mais c'est vrai que ça demande de l'énergie, ça demande un petit peu d'énergie, ça demande un petit peu de concentration, etc. Enfin, c'est effectivement des choses qui demandent assez de temps aussi. Et puis donc après le PSE1, il y a une autre formation qui est quasiment pareil, qui est un petit peu moins de 35 heures, mais quasiment identique, qu'on appelle PSE2. Donc là c'est le niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on garde en fait l'acquis en fait du PSE1, donc tout le savoir qu'on a, mais en plus on rajoute une autre couche où là il y a tout ce qui est les choses un petit peu plus approfondies, et là c'est pareil, donc ça demande aussi du temps
Et donc oui, parce que tu disais quand tu t'es présenté au début de ce témoignage que que tu travaillais dans un laboratoire, donc tu travailles donc par ailleurs, en plus du bénévolat, donc j'imagine que tu as un emploi du temps assez chargé. Comment tu t'organises en fait? Qu'est-ce que cela te demande en termes de temps finalement d'être bénévole à la Croix-Rouge en tant que secouriste?
Alors en termes de temps, en fait,
approximativement.
Alors c'est fluctuant.
Dans la semaine.
Je pourrais pas vraiment le chiffrer parce qu'il y a des moments où par exemple sur une semaine je vais passer par exemple juste une après-midi. Par exemple là, par exemple les trois derniers mois, janvier, février, mars, j'ai expliqué à mon directeur local d'urgence et du secourisme, Quentin Collieux, vous avez fait une belle interview avec lui il y a pas longtemps, donc j'ai expliqué que je pouvais pas venir parce que mon planning faisait que je travaillais du lundi au samedi, donc je pouvais pas, souvent les postes de secours, les formations, etc., c'est les week-ends, donc c'est vrai que même quand le samedi est impacté, ça, c'est assez juste. Donc c'est quand on peut pas, quand vraiment on a un planning qui est vraiment surchargé, et ben à ce moment-là on se dit qu'on n'est pas dispo et voilà, donc c'est vraiment en fait en tant que bénévole on essaie toujours d'adapter. On essaie toujours de dire voilà, bon, par exemple je peux que être bénévole, enfin je peux donner mon temps que par exemple les week-ends, que de telle date, etc. Mmh. Et c'est par rapport à ça en fait qu'on organise notre planning. Alors après c'est relatif, soit on a beaucoup de charges de travail, donc là c'est vrai qu'on peut pas dégager beaucoup de temps, mais à l'inverse aussi, par exemple pendant les vacances ou pendant les périodes de chômage ou par exemple les périodes de congé, bah là où on a un petit peu plus de temps, là on va pouvoir un peu plus s'investir, etc. Donc après c'est vrai que par exemple sur des formations, je prends cet exemple-là, sur les formations de 35 heures, il y a la formation qui dure effectivement 35 heures, on peut être là pendant 35 heures, mais en plus de ça, il y a tout le travail un peu en amont qu'on doit effectuer, de préparation de formation, par exemple sur des réunions qu'on peut avoir avec l'équipe pédagogique pour savoir qui fait quoi, etc. Après s'occuper de la logistique, après s'occuper des supports pédagogiques, du déroulé, enfin etc. Et puis après la formation, on a aussi également tout le matériel, désinfection, etc. Enfin tout le conditionnement et puis l'administratif. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut demander du temps, mais ce qu'il faut c'est
on s'adapte. En fait, tout le monde s'adapte finalement.
Ouais, et puis définir est-ce que
les demandes, les besoins, tout le monde s'adapte un petit peu.
C'est ça.
Par rapport à ses disponibilités finalement.
Exactement, c'est exactement ça. C'est est-ce que
c'est pas le bénévolat aussi. On fait le maximum, mais on fait ce qu'on peut.
Oui, c'est ça.
Exactement. Oui, et alors ce que je voulais te demander aussi, Sidoine, c'est comme je sais que tu viens de nous l'expliquer, tu t'occupes en ce moment justement. Tu t'occupes des formations de premier secours et ça a lieu le week-end. Donc tu travailles le week-end finalement, souvent.
Bah, c'est pas un travail surtout, enfin c'est du bénévolat donc c'est.
Enfin oui, enfin quand après, je travaille je veux dire.
Oui, mais alors après oui on fait enfin souvent la majorité des formateurs. Mais
je crois que c'est le samedi matin après-midi.
Oui, le samedi, alors ça dépend. Enfin, c'est soit le vendredi après-midi, le samedi. Enfin, ça dépend en fait des moniteurs. Par exemple, il y a des moniteurs qui vont. Alors, ça se fait plus trop maintenant parce qu'il y en a plus trop qui font ça. Mais par exemple, il y en a qui vont dire, dans la semaine, ils vont prendre un créneau de 2-3 heures le soir, c'est-à-dire de, par exemple, je sais pas, de 7h à 9h ou de 7h à 10h, et puis étaler donc la formation sur plusieurs soirs comme ça. Après le travail, donc le lundi ou voilà. Ou par exemple ça se fait plus trop, mais souvent en fait on fait oui on souvent on occupe en fait nos week-ends justement par ces actions Croix-Rouge, que ce soit dans la formation mais également aussi dans les postes de secours. Les postes de secours qui sont par rapport à des événements, que ce soit des concerts ou des concerts ou des événements culturels, là où justement il est nécessaire d'avoir une présence de premier secours, enfin d'une équipe de premier secours, et c'est souvent le week-end, et la Croix-Rouge est présente par rapport à ça.
Et comment ça s'est passé pour toi, Sidoine, avec le confinement, suite à la crise sanitaire, au début du confinement, comment ça s'est passé? J'imagine que tu as dû annuler les formations au premier secours, comment ça s'est déroulé?
Ouais, alors en fait, c'était... En fait, ce qui s'est passé, alors on avait déjà en amont, un petit peu avant, on avait eu des consignes un peu particulières relatives à la formation. Justement, de ne pas effectuer certains gestes, de ne pas effectuer certaines choses. Et très rapidement, en fait, il s'est mis en place le confinement. Et partant de là, en fait, on a eu tout simplement la décision du national, enfin de la Croix-Rouge nationale, qui, je pense que voilà, d'arrêter toute activité, mmh. en l'occurrence la formation. Donc en fait, c'était repoussé. Donc très rapidement, le secrétariat en fait s'est saisi de ça pour justement appeler tout le monde et expliquer que la situation, donc c'est juste repoussé jusqu'à donc mmh. parce que c'est bloqué, toutes les formations là, à Croix-Rouge sont actuellement bloquées jusqu'à nouvel ordre.
Ouais, c'est
jusqu'à
ça.
Jusqu'à ce que justement la Croix-Rouge aussi planche, enfin et même j'imagine tous les organismes aussi qui sont qui donnent des formations de premier secours aussi, je pense ils songent aussi. Donc voilà de voir un petit peu ce qui va être mis en place parce que s'adapter aussi justement par rapport à ce risque-là si on doit reprendre la formation. Donc peut-être plus de présentiel, peut-être des pistes comme ça qui vont peut-être être mises en place.
Mmh. Et être secouru, c'est un véritable engagement. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement? Qu'est-ce que ça signifie pour toi?
L'engagement, en fait, c'est moi je vois pas ça. Enfin, l'engagement, l'engagement, si vraiment on prend au niveau du mot lui-même, c'est plus un engagement par rapport à quoi on s'engage en fait. Si même si on est bénévole, c'est vrai qu'on n'est pas payé, on n'est pas pour ce qu'on fait, mais par contre, le fait de dire je fais ce poste ou je fais cette formation, mais s'engager à le faire quoi. Si vraiment il y a un impératif vraiment c'est vraiment important, mais de dire voilà, parce que c'est comme si on travailler quoi, enfin voilà, c'est
dire, mais oui c'est ça, c'est à dire voilà, qu'on fait pas les choses à moitié,
exactement. Donc au moins s'engager, au moins être là. Après sur il y a une autre partie justement de cet engagement beaucoup plus sur la durée. Moi je vois plus en fait comme cet engagement au niveau de bénévolat à la Croix-Rouge comme un chemin de vie en fait. C'est quelque chose qui nous apporte énormément. C'est quelque chose qui nous permet justement à travers les formations, à travers les différentes actions en fait qu'on peut effectuer, et bien nous remettre en question aussi et de permettre justement d'évoluer et même coévoluer même avec nos différents en interne, etc., qui permet justement de dépasser certaines peurs, de dépasser certains blocages. Notre engagement au sein de la Croix-Rouge fait partie en fait quelque part de notre cheminement aussi personnel, et ça nous permet d'évoluer et justement d'avancer quoi.
Mmh. Et justement depuis tout ce temps, maintenant ça fait longtemps tu es bénévole secouriste, j'imagine que tu as une longue expérience. Qu'est-ce que tu as appris finalement, qu'est-ce que tu pourrais dire avoir appris d'un point de vue je vais pas dire philosophique mais presque. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté au fil des ans?
C'est quelque chose qui une fois de plus qui est humain quoi. Et au-delà du social, etc., c'est vraiment quelque chose qui, alors que ce soit, je prends un exemple simple par exemple, c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident dès le départ. C'est que j'étais quand je suis rentré à Croix-Rouge, j'étais jeune adulte quoi, et c'était assez vous m'auriez dit avant de prendre la parole en public, etc. J'étais rouge comme un extincteur. Enfin, ça aurait été très difficile. Le fait qu'à travers les formations, il y a un cadre, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, qui permettait justement de pouvoir juste exercer, tout du moins tester tout ça, mais dans un cadre suffisamment protecteur, enfin tout du moins avec un filet suffisant pour pouvoir expérimenter les choses. Ça m'a permis justement de dépasser, de me remettre en question, de voir un petit peu les angles morts, de voir un petit peu ce qui était des croyances limitantes, enfin de casser un petit peu tout ça. Et justement dans ce cheminement, ça m'a permis justement au fur et à mesure de pouvoir dépasser toutes ces peurs, et puis finalement de pouvoir
relativiser, on peut dire, ouais. Aussi prendre du recul peut-être.
prendre du recul aussi. Voilà.
Est-ce qu'on est toujours aussi effrayé par la souffrance ou est-ce qu'on la relativise? Comment ça se passe par ça?
Des situations qui marquent, enfin, clairement.
Oui.
Il y a des situations même. Alors, c'est pas forcément les trucs les plus. Après, c'est relatif aussi à chaque personne. Hein, mais c'est quelque chose qui même le simple détail sur une situation, ça peut effectivement marquer un peu l'esprit. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si sur ce genre de situation, on est un peu en difficulté, etc., le tissu en fait des autres bénévoles peuvent déjà en un premier temps aider. Et puis en plus, on a la structure elle-même propose aussi justement une aide. On a par exemple, je pense à notre psychologue référente qui elle aussi est là justement si. Il y aurait eu un souci par rapport à une intervention, etc. Et
puis, ça, c'est très intéressant. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait une psychologue référente.
Si, au niveau du départ.
Donc, elle fait partie de l'équipe de secouristes, en fait, des secouristes.
Oui, elle fait partie
du soutien psychologique en cas d'accident. Ouais. Ah oui.
Donc,
Peux nous en parler de ça un peu? Oui.
Oui, fait partie qu'en fait quand on dispense les formations, etc., c'est des choses qu'on aborde. Et ça fait partie du parcours, enfin voilà, ça fait partie de. Et donc proposer au moins cette possibilité s'il y a besoin. Effectivement, la psychologue que l'on a en fait partie du pôle santé du département et que voilà, on sait que on peut en discuter. Alors on peut aussi en discuter effectivement avec dans un premier temps avec les autres collègues
collègues, oui.
Mais après, voilà, il y a toujours cette possibilité, effectivement, d'en parler.
Oui, si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez aller parler à la psychologue.
Ouais.
Nous avons consacré une précédente émission au rôle de la Croix-Rouge de Blois face à la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 que nous traversons, que nous avons traversé et que nous continuons à traverser actuellement, malheureusement. Aussi, je souhaiterais à présent que tu nous parles d'une autre question qui me paraît non moins urgente. Comment, de manière plus générale, en tant que secouriste à la Croix-Rouge française, vous préparez-vous face aux conséquences du changement climatique sur la santé des personnes? Et quelle influence cela a-t-il sur votre travail?
Alors, c'est une question vaste. Il y a plusieurs pistes, en fait. Il y a plusieurs éléments qui sont traitables. Je vais juste rappeler que, alors déjà la question de l'environnement, enfin de manière générale, c'est-à-dire que l'impact du changement environnemental pourra avoir, parce qu'il y aura de plus en plus de catastrophes, et de par ce fait, en fait, la Croix-Rouge a une certaine forme d'expertise dans la prise en charge en fait des impliqués. La Croix-Rouge depuis longtemps sait mettre en place en l'occurrence des centres d'hébergement d'urgence, des centres d'accueil des impliqués par rapport justement pour la prise en charge justement de personnes qui seraient impactées par une catastrophe naturelle ou environnementale. Donc ça c'est des formations par exemple qu'à la Croix-Rouge la Croix-Rouge française on met en place en l'occurrence à dans le département et à Blois aussi. C'est une formation, enfin voilà, que tout bénévole peut effectuer. C'est vraiment des formations qui sont vraiment intéressantes et enrichissantes. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être appuyé.
Oui, parce que c'est une projection dans l'avenir en réalité. Donc.
Tout à fait. Je pense que c'est vraiment.
Ça devient de plus en plus important finalement.
Mm. Ouais. Je pense. Alors après, il y a plein d'autres. La question, enfin, rapporte aussi à tout ce qui va se passer pour la suite, les grands axes, etc. Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont discutées hein, au niveau national sur les différents axes, etc. Je pense que c'est des choses qui sont dans les tuyaux. Je peux pas non plus m'avancer par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est des choses qui vont évoluer. Et ne serait-ce que même par exemple, je vous dis prochainement la formation la formation, par exemple, juste après, enfin, dès que ça va être mis en place pour les formations, on aura des consignes particulières, etc. Donc ça, c'est des choses.
Ah oui, adapté à la situation.
Ouais. Et même
adapté à à l'évolution de la situation, je veux dire. Oui.
Ouais, de la situation actuelle, et puis même pour les autres situations potentielles, enfin, qui vont peut-être arriver après, bah aussi, peut-être des consignes aussi particulières dans la prise en charge, justement, du premier secours en équipe, enfin, de choses un petit peu particulières aussi, je pense, aussi.
Donc, pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite, chères auditrices et auditeurs, à lire la tribune du Parisien paru le 22 décembre dernier, relatant les propos de Jean-Jacques Elledjem, président national de la Croix-Rouge française, tribune intitulée « Santé et climat, préparons-nous ». Eh bien voilà, nous allons conclure là-dessus. Sidoine, je te remercie énormément pour ta disponibilité.
Merci, merci beaucoup.
Et ton optimisme, ta persévérance. Et je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt, Sidoine. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci à vous.
Et au revoir.
Au revoir.
Association Loi 1901, la Croix-Rouge française repose sur l'engagement de ses adhérents et de ses bénévoles. Sa finalité est de permettre à des personnes de s'associer pour agir. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le secourisme, la santé. Afin de les remplir, la Croix-Rouge a adopté en 1965 sept principes fondamentaux. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. À l'heure actuelle, l'accueil de la Croix-Rouge et les locaux de l'unité locale de Blois sont fermés pour une durée indéterminée, étant donné la crise sanitaire que nous traversons, mais pour les plus vulnérables, un numéro vert est à votre disposition. Le 09 70 28 30 00. 09 70 28 30 00. Disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Un grand merci à toutes et à tous, et nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt.